Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Jamais l'intérêt pour l'actualité et la confiance envers les médias n'ont été aussi faibles à la veille d'une présidentielle. C'est l'un des enseignements du baromètre de confiance Kantar Public One Point réalisé pour le journal La Croix. Une étude souvent riche d'enseignements pour les médias, alors que les Français ont beaucoup d'attentes pour leurs journaux, leurs radios ou leur télé favorite. J'en retiendrai une. 61% des sondés jugent essentiel que les médias fournissent des informations fiables et vérifiées. Ils sont même 96% à juger cela essentiel ou important, mais ils sont aussi 40% à avoir le sentiment que les médias en France ne fournissent pas cette information fiable et vérifiée en pleine campagne présidentielle, potentiellement polluée par les fake news. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter un fait de l'actualité économique, financière ou politique. Aujourd'hui, on va s'interroger sur le poids des infox dans cette campagne.
Intox, intoxiqué, opium, opium.
La fake news, l'infox en français. Le baromètre Kantar Public témoigne des exigences des sondés en matière d'information. Ils souhaitent des médias indépendants du pouvoir politique et économique. Ils veulent que ceux-ci privilégient la qualité de l'information à l'audience et souhaitent par-dessus tout que les médias leur fournissent des informations fiables et vérifiées. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la rédaction des Échos. Je voudrais revenir avec vous sur ce baromètre publié par La Croix. Cette exigence d'accès à une information fiable et vérifiée de la part des médias, finalement, c'est assez rassurant.
Ah oui, c'est rassurant parce que c'est vrai que on est depuis quelques années entouré de médias sociaux qui colportent beaucoup d'informations non vérifiées et j'ai l'impression qu'il y a une maturité qui est en train de se créer et que une partie du public aujourd'hui fait davantage confiance à des médias traditionnels, à des marques que les gens connaissent depuis longtemps et dont ils connaissent le sérieux. Et effectivement, le contexte par ailleurs de pandémie a renforcé le besoin d'avoir une information qui soit sur ces questions de santé, de vie ou de mort, hein, en quelque sorte, qui soit vraiment fiable, vérifié, alors que on voit beaucoup de choses qui circulent et qui relèvent du grand n'importe quoi.
Mais pour autant, les Français jugent assez sévèrement les médias sur ce critère. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Je pense qu'il y a une défiance qui d'ailleurs dépasse les médias, mais il y a une défiance un peu générale à l'égard de toute parole qui incarnerait une forme d'autorité ou de magistère. Une défiance également, on le sait bien, à l'égard des élites, et parfois les médias, enfin en tout cas les grands médias traditionnels sont englobés dans cette catégorie-là. Et donc cette sévérité, elle n'est pas que française hein, d'ailleurs, mais nous dans notre travail, quand on voit comment les journalistes travaillent, cherchent à vérifier leurs informations, à les recouper, à recueillir différents points de vue, à bien avoir une information mesurée, alors on voit bien, quand on voit comment ce travail se fait, que ce jugement, effectivement, est sévère et un petit peu injuste, faut le reconnaître.
Comment lutter contre la prolifération des fake news, hein, des infox dont vous parliez, et comment, par ricochet, redonner confiance dans les médias ?
Je pense que dans un univers où l'accès à une tribune que procurent les réseaux sociaux et qui permet à chacun de s'exprimer avec plus ou moins d'audience, rend difficile la lutte contre la prolifération de fake news à partir du moment où chacun, depuis n'importe quel point du globe, peut dire tout ce qu'il veut, forcément, on on va se retrouver avec davantage de fake news que s'il y avait le filtre du travail des journalistes pour éviter que se colporte trop d'informations non vérifiées ou totalement farfelues. Donc voilà, c'est un fait. On est dans une société où les réseaux sociaux ont pris cette importance et il faut vivre avec. Ils ont aussi de très bons côtés. Il y a tout un aspect positif, évidemment, dans l'essor des grands réseaux sociaux. Donc, faut pas tout condamner. On se souvient, par exemple, du rôle qu'a pu jouer Facebook dans le printemps arabe. On voit bien le rôle que peuvent jouer les réseaux sociaux dans des pays qui sont des dictatures et qui permettent un espace d'expression, qui permettent aux gens de réagir, de dire ce qu'ils pensent pour de bon. Donc, il n'y a pas que des fake news sur les réseaux sociaux, tant s'en faut. Mais lutter contre ça, c'est vrai que c'est difficile, parce que c'est inhérent à la masse d'intervenants qui se branchent sur ces réseaux.
Emmanuel Macron appelle à enseigner en France l'esprit de méthode, l'idée de vérifier les faits à l'ère de l'Internet et des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est à l'école que ça doit déjà commencer ?
Ah oui, je pense qu'on n'en fait jamais assez en matière d'éducation, ça c'est certain. L'école, c'est pas le seul lieu où on apprend l'esprit critique, mais enfin c'est quand même un lieu majeur pour ça. Donc c'est extrêmement important de développer ce sens critique. Je pense d'ailleurs que les plus jeunes ont davantage des outils pour décoder, parce qu'ils sont nés avec, pour décoder, pas tout en tout cas, mais enfin une partie de ce qui peut circuler comme fausses informations sur les réseaux. Ils sont moins, peut-être moins dupes que la génération au-dessus. En tout cas, ils comprennent mieux comment ça fonctionne. Ils ont une certaine distance souvent par rapport à tout ça. Après, ça n'empêche pas que beaucoup tombent dans le panneau, prennent telle vidéo pour argent comptant alors qu'elle remonte à plusieurs années. Enfin, voilà. Ça, on le voit tous les jours. Et donc, c'est pour ça que c'est important, effectivement, d'enseigner à l'école cet esprit de méthode, cet esprit critique, cette volonté de vérifier les faits. Et puis aussi, d'avoir le bagage culturel qui permet de prendre de la distance avec les choses.
En 2017, les Échos avaient mis en place une cellule de vérification des faits. Pourquoi ne pas avoir reprogrammé l'expérience en cette année électorale ?
La vérification des faits, d'une certaine façon, on la fait tous les jours dans nos articles. Donc, quand un grand sujet émerge, par exemple, dans le débat politique, dans la campagne électorale, bah, notre travail, ça va être d'apporter des éléments objectifs, de toute façon, pour expliquer le sujet, donner du recul, donner les bons outils d'analyse, les bons chiffres, les bons ordres de grandeur, etc. Donc, cette vérification des faits, on l'a fait. Et par ailleurs, je pense qu'assez souvent, la réponse, quand on essaye de vérifier une information, et c'est peut-être parfois la limite de l'exercice mené par certains médias pour démêler le vrai du faux, très souvent la réponse n'est évidemment pas ni vrai ni faux, c'est entre les deux. C'est plus compliqué, c'est plus subtil. Et d'ailleurs, on le voit bien, quand on essaye de faire des vrais faux, comme on dit, en fait, la réponse est très rarement « oui, c'est totalement vrai » ou « non, c'est totalement faux ». Donc du coup, le travail, notre travail quotidien, ça va être d'apporter tous ces éléments d'appréciation qui permettent de démêler avec finesse le vrai du faux.
Et on voit que la campagne présidentielle s'annonce très indécise, beaucoup de tensions liées notamment au pass vaccinal, avec des infox qui risquent aussi de se retrouver au cœur de cette campagne. Il faut plus de vigilance en période électorale ?
Oui, ça, bien sûr, il faut plus de vigilance. Et c'est vrai qu'on est pris entre des choses un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'on sait que dans ces périodes-là, il va y avoir beaucoup de fausses informations, beaucoup d'intoxications qui vont circuler, et notamment sur les réseaux sociaux. Et la tendance, enfin, le réflexe premier voudrait qu'on se dise il faut mieux contrôler ça, mieux contrôler ce qui circule comme information sur les réseaux. Voilà. On voit que c'est, en pratique, très difficile de trouver le bon équilibre, parce qu'assez vite, on pourrait aussi basculer dans une sorte de police des médias. Et ça, bien sûr, on n'en veut pas. On n'a pas envie qu'il y ait un organisme qui se mette à contrôler tout ce qui s'écrit, qui fasse une sorte d'arbitrage entre ce qu'on peut publier, ce qu'on ne peut pas publier. Ce qu'on peut regretter, nous, en tant que médias, j'allais dire médias régulés, par rapport aux médias non régulés, un peu comme on dit, il y a la finance régulée et puis il y a la finance de l'ombre, bah, il y a effectivement des médias régulés, les nôtres, qui sont soumis à des lois très claires sur la diffamation, sur donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire, et c'est très bien, si on diffame, si on a des contenus racistes, antisémites, tout ça c'est condamnable, et c'est dans la loi. En revanche, c'est vrai que les réseaux sociaux ne sont pas soumis à ces contraintes-là, et on peut le regretter. Alors c'est beaucoup plus difficile, parce que ce ne sont pas des éditeurs, à proprement parler, donc ils contrôlent pas ce qu'écrivent leurs membres. Mais il y a quand même un équilibre à trouver entre la régulation parfaitement légitime à laquelle sont soumis les médias traditionnels et la quasi-absence de régulation qui s'applique aux réseaux sociaux et qui donne un espace d'expression pour tout un tas de complotistes et de gens qui racontent n'importe quoi. Vous pouvez pas éviter aujourd'hui qu'il y ait des gens qui s'organisent parce qu'ils pensent que la Terre est plate et voilà, et ou d'autres qui pensent que on nous injecte la 5G quand on fait un vaccin, enfin voilà. Bon, comment est-ce qu'on lutte contre ça? Je pense qu'il y a davantage de régulation à faire du côté des réseaux sociaux, et ça, malheureusement, on est encore loin du compte.
Les Français souhaitent donc une presse indépendante aux informations fiables et de qualité, mais ils ne sont pas toujours prêts à payer pour cela. Ils sont aussi nombreux à ne pas s'intéresser à l'actualité, notamment les jeunes. La confiance se délite entre les médias et les Français, ce qui pousse certains à s'informer autrement, sur Internet notamment.
On se calme, hein? Où as-tu récupéré ce ramassis de bêtises?
Sur Internet?
Oui, sur Internet. Très bien, mais sur quel site?
Attendez, je ne me rappelle plus. Sur ce site-là.
Je comprends
le site poisson d'avril.1. Oh, oh la loupe!
La vérité ne sort pas toujours de la bouche d'Internet.
Bonjour Grégoire Poussielgue.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service politique des Échos. Les infox, les fake news, c'est une préoccupation du gouvernement dans cette campagne 2022?
Évidemment, parce qu'on a vu que les fake news, elles ont eu un impact sur beaucoup de consultations au cours des dernières années. Je pense notamment à la campagne sur le Brexit en 2016. Je pense à l'élection de Trump en novembre 2016 ou à l'élection de Biden en 2020. Il faut se souvenir que Trump ne reconnaît toujours pas la victoire de son concurrent, l'accusant notamment d'avoir truqué les votes. Or ça, ce sont des fake news. Donc, il se peut effectivement qu'il y ait un impact pour cette campagne présidentielle. Et ce qu'on a vu là au cours de la crise sanitaire, c'est qu'il y a une recrudescence incroyable des fake news, notamment de la part des anti-vax. Donc, ça donne des perspectives plutôt inquiétantes, on va dire, sur cette campagne 2022. Et enfin, la différence qu'on a, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les plateformes type YouTube, Facebook, on voit qu'il y a un changement, c'est-à-dire que maintenant, les fake news peuvent conduire à de la violence. On l'a vu avec l'assaut du Capitole l'année dernière à Washington. Et ça, c'est quand même la grande différence par rapport aux années précédentes.
Ah, ou la classe politique aussi, de nombreux députés, hein, qui sont victimes d'insultes ou de menaces. On en a parlé aussi dans la story. La France vient de se doter d'une agence nationale de lutte contre les manipulations de l'information, avec l'objectif de détecter les attaques quand elles viennent notamment de l'étranger, avec une volonté de déstabiliser l'État sur le plan politique. Les informations fausses, c'est aussi une arme politique?
Bien sûr, les informations fausses, c'est une arme politique des régimes autoritaires, des dictatures, dans le but de déstabiliser les démocraties et donc le processus démocratique que sont les élections. Donc cette agence, elle s'appelle Viginum. Elle a été créée l'été dernier par le gouvernement. Elle est placée sous l'égide du SGDSN, qui est le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Le but, c'est d'identifier ces fake news. C'est pas tellement de lutter contre, mais au moins de les identifier sur la base d'informations publiques. Et il faut ajouter aussi que pour lutter contre ces fake news, il y a aussi beaucoup d'initiatives privées qui sont prises, notamment par les médias, qui mettent en place des plateformes de check news, pour checker les informations.
On a parlé de la campagne notamment aux États-Unis, mais il y a aussi des enseignements de la campagne de 2017, avec à l'époque des attaques notamment contre le candidat Emmanuel Macron.
Oui. Trois jours avant le second tour de 2017, Emmanuel Macron avait été accusé de détenir des comptes bancaires dans des pays étrangers. Et on se souvient que Marine Le Pen avait fait mention de cette rumeur pendant le débat de l'entre-deux-tours. Donc clairement, là, le gouvernement s'attend à ce qu'en 2022, il y ait de nouveau ce genre de fake news pendant la campagne. Et notamment vers la fin de la campagne, quand tout s'accélère, quand tout s'intensifie.
Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes. Ce sont des organes d'influence. Rushia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et donc j'ai considéré qu'ils n'avaient pas leur place, je vous le confirme, à mon quartier général.
On a entendu la charge d'Emmanuel Macron en juillet 2017 contre certains médias russes proches du Kremlin. Il pointait justement du doigt RT France.
C'est clairement une arme du gouvernement russe pour diffuser l'information vue par les Russes. Et de fait, ça devient une plateforme fake news. Quoi. Notamment, on l'a vu là pendant la crise sanitaire sur la vaccination. Mais on a vu aussi que RT, par exemple pendant la crise des Gilets jaunes, avait une couverture très extensive de cette crise, suivait systématiquement toutes les manifestations pour montrer en gros un pays à feu et à sang.
J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme.
Le couple présidentiel a été directement visé par des fake news, avec par exemple cette théorie absolument incroyable qui accuse Brigitte Macron d'être un homme. Comment le couple Macron a-t-il réagi ?
Très mal, parce qu'évidemment, c'est jamais très agréable de subir ce genre d'accusation. Brigitte Macron a été obligée de monter au créneau, elle a fait des médias pour réagir, et surtout, elle raconte que ce qui l'a motivé, c'est qu'ils ont en fait attaqué la généalogie de sa famille. Et donc, évidemment, elle a porté plainte. Et elle raconte aussi qu'elle a mis 5 jours pour enlever ses contenus très infamant contre elle sur les réseaux sociaux. Mais il suffit de faire un petit tour sur Twitter, ce que je viens de faire, et on se rend compte que cette rumeur, elle continue de circuler sur Twitter et qu'on trouve des vidéos, des articles qui racontent ça.
Grégoire, est-ce que toutes ces fausses nouvelles peuvent avoir un impact, une influence sur le vote ?
C'est la grande question. Il y a eu le rapport qui vient d'être rendu par Bronner qui relativise en fait ces fake news parce qu'il dit aussi qu'en fait, elles ne sont pas heureusement la majorité des informations qui circulent sur Internet. Mais la question de se demander est-ce que ça peut influencer le vote de certaines personnes ? Franchement, difficile d'avoir une réponse. Bronner, ce qu'il dit dans son rapport, c'est que quand on est sensible aux fake news, en fait, on est conforté dans ses opinions. Donc en fait, les gens, par exemple, qui regardent des fake news contre Macron ou contre l'exécutif sont de toute façon des gens qui ne voteraient pas Macron. Donc, est-ce que ça aura un impact ? On ne sait pas vraiment.
Mais le site 20 minutes avait listé en avril 2017 pas moins de 14 infox qui circulaient au sujet d'Emmanuel Macron. Vous parliez justement du rapport Bronner sur la désinformation remis récemment à l'Élysée. Que propose-t-il ?
Il a remis son rapport début janvier. Donc Gérald Bronner, c'est un sociologue très connu qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de mesure immédiate, décisive contre les fake news. Donc celui qui propose, c'est à la fois renforcer l'éducation aux médias dans les collèges, dans les lycées, renforcer l'esprit critique des Français. Il propose aussi d'autres types de mesures, qui est notamment une meilleure régulation des plateformes. Mais selon ce qu'on se rend compte, ou par exemple, il souhaite aussi que les chercheurs aient un accès aux algorithmes de ces plateformes qui restent une terre incognita pour eux. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que la balle, en fait, est plutôt dans le camp des plateformes. C'est-à-dire que les YouTube, Twitter, Facebook véhiculent énormément de fake news. Et en fait, ce sont eux qui ont vraiment le pouvoir pour les enlever. Il y a d'ailleurs eu récemment une initiative de plateforme de Check News, justement, pour dénoncer ces fake news qui inondent YouTube.
Aucun élément de preuve ne pourra jamais mettre un terme à cette rumeur dans l'esprit de ceux qui veulent y croire. Un test ADN, il sera trafiqué. Une prise de parole de Jean-Michel Trogneux aux côtés de Brigitte Macron, c'est un clone ou un sosie. Une photo de Brigitte enceinte, c'est un photomontage.
Intéressante, cette vidéo de Jonathan M. qui revient sur YouTube sur cette fake news complotiste. Il raconte sa contre-enquête sur l'affaire Trogneux-Brigitte Macron. Il a difficulté de convaincre. Mon grand-père me disait « on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif ». Mais pourquoi les fake news imprègnent-elles autant la société ? Pourquoi les individus y sont-ils autant sensibles ? Il y a quelques jours, je recevais dans la story Séverine Némezin, psychologue, pour parler des effets du Covid sur la santé mentale. J'en ai profité pour parler avec elle du phénomène des fake news.
Il y a plusieurs explications qui vont faire qu'on va faire circuler de fausses informations ou qu'on va simplement s'en nourrir. Ça nourrit nos systèmes de croyances aussi, les fausses informations. C'est j'ai une croyance, j'ai une certitude. C'est Boris Cyrulnik qui a écrit ça dans un de ses livres, qui disait que les gens qui manquaient de connaissances avaient des croyances et que ceux qui avaient trop de connaissances avaient des doutes. Donc pour ne pas douter, pour ne pas avoir peur de l'inconnu encore, donc dans des périodes où ça va être un peu plus probant que l'on est dans l'inconnu de ce qui se passe, de ce qui va se passer, on va avoir tendance naturellement, et ça fait partie de ce qu'on appelle les stratégies de coping chez l'être humain, à se raccrocher à de fausses informations. C'est comme s'il y avait ce qu'on appelle en psychologie un biais de confirmation pour alimenter nos propres croyances, parce que ça nous rassure juste beaucoup. Alors ça, c'est la raison la plus ancestrale qu'on peut justifier. C'est quelque chose de presque primitif dans les moyens de défense utilisés par les individus. Mais ça va être pour d'autres raisons encore existantes aujourd'hui. On l'a vu par rapport aussi à la propagation des informations sur les réseaux sociaux. Donc il y a pour certains peut-être une recherche de faire du buzz, d'aller chercher des followers autrement. Et puis, ça alimente certaines thèses complotistes. Complotisme qui est aussi extrêmement important dans des situations d'histoire où les choses nous échappent complètement. C'est un moyen aussi, le complotisme, de resituer, par exemple, de mauvais objets. Devant les incertitudes et les attaques comme ça, un petit peu comme la maladie a pu l'être, l'est encore incertaine, c'est situer un coupable. L'être humain, quand il est face à l'inacceptable, il a besoin d'avoir ce qu'on appelle en psychanalyse un mauvais objet. C'est une personne, un individu, une circonstance, un propos d'un dirigeant, par exemple, où on va pouvoir cristalliser notre système de croyance et un certain étendard de pensée, et qu'on va pouvoir rendre coupable de tous les maux qui, mots de la terre, mots M-A-U-X, qui nous proviennent, en fait. C'est le coupable désigné.
Il faut faire une distinction entre rumeur et fake news ?
Oui, on va faire une distinction entre rumeur, entre fake news, entre désinformation aussi. Et la rumeur, c'est le bruit qui court, qui va se répandre. Par exemple, dans les villages avant, pour répandre une rumeur, c'était, voilà, il arrivait quelque chose qui venait de l'extérieur, que quelqu'un avait rapporté. Et la rumeur avait de ça le sens d'informer sur ce qui pouvait venir de dangereux de l'extérieur pour qu'on puisse se préparer à parer ce danger-là. La rumeur vient de ça. Après, la rumeur a évolué dans un sens de partage social. C'est-à-dire que quand on est aujourd'hui face à la machine à café au bureau et qu'il y a une rumeur sur Claudine de la Conta qui a été vue avec Marcel du service informatique, là, ça devient un enjeu de partage social, de pouvoir amener de la cohésion au sein du groupe au détriment de celui qui est victime de la rumeur. Mais ça ramène cette cohésion au sein du groupe. Donc la rumeur a une fonction de protection, et elle va avoir une fonction aussi dans le lien social. La fake news, donc on est sur de la fausse information qui va aussi ramener un petit peu de cette cohésion sociale, parce que par exemple, on peut partager sur une fake news un avis contraire sur quelque chose qui est tenu comme étant informatif de l'autre côté, et ça donne une impression un petit peu d'appartenance groupale par rapport à ce que convenu de l'autre côté dans le lien social plus large. Donc ça permet d'inscrire des petites communautés au sein de plus grandes communautés. Après, la fake news, elle a aussi, dans les mécanismes un petit peu plus approfondis, si on va chercher un petit peu plus loin, elle a aussi pour but de noyer l'information réelle dans un tas d'informations qui ne le sont pas. Et là aussi, c'est quelque chose qui peut d'une part un peu rassurer la masse par rapport à ce qu'il se passe, parce que ça va être plus facile de penser que, voilà, pour quelqu'un qui serait par exemple anti-vax Covid, j'aime bien faire la distinction entre anti-vax et anti-vax Covid, quelqu'un qui serait anti-vax Covid, bah, ça va très résumer les choses, que de dire « moi, j'ai peur de ce virus parce que j'ai entendu dire que j'allais avoir la 5G intégrée » ou « voilà, on a eu tout un tas de choses absolument fantastiques par rapport à cette thématique-là ». Mais c'est beaucoup plus facile d'avoir quelque chose de presque caricatural pour argumenter quelque chose qui, par ailleurs, quand on regarde les faits, donc les réelles news, pour en contrario par rapport à fake news, ben, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus caricatural. Et donc, par rapport à la masse qui va se diffuser beaucoup plus vite parce que c'est tellement caricatural, c'est tellement énorme qu'il faut que la Terre entière le sache en fait. Donc il va y avoir un peu comme ça quelque chose qui va se répandre plus vite.
Merci Séverine Némezin, psychologue, pour cet éclairage sur les fake news. Et merci Grégoire Poussielgue du service politique des Échos et Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour les décryptages et analyses de cette campagne présidentielle, rendez-vous sur leséchos.fr.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.